Je fais pas beaucoup de sponsoring sur ce podcast, mais cette fois c'est différent parce que cette fois, le sponsor, bah c'est moi. J'ai une info à vous faire passer. Ma toute nouvelle formation Stratégie Persona est disponible. Stratégie Persona, c'est la solution pour toutes les personnes qui ont du mal à trouver des clients. Toutes les personnes qui ont du mal à définir qui sera leur prochain client. Toutes les personnes qui ont du mal à trouver les mots justes pour parler à leurs clients. Parce que oui, vous savez que mettre vos clients au cœur de votre stratégie, ben c'est ce qui va vraiment faire décoller votre marque. Sauf que c'est pas si simple que ça. Alors j'ai créé tout simplement la formation la plus complète du marché sur le persona. Et je vous fais une promesse, si vous la suivez et si vous l'appliquez, dans une semaine, vous saurez exactement qui est votre client idéal et ce qu'il faut lui dire pour qu'il achète. Stratégie Persona est disponible sur mon site, lepodcastdumarketing.com/stratégie persona. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 184. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. J'ai commencé par le regarder de loin. Je le trouvais marrant, différent, mais au fond, pas si intéressant que ça. Et puis, il a commencé à avoir du succès. Tout le monde parlait de lui partout. Ça devenait un peu énervant. Je le trouvais présomptueux à prendre tout le monde de haut. Mais bon, je m'inquiétais pas trop. Ce sera un feu de paille, encore un effet de mode. Dans quelques mois, tout le monde l'aura oublié. Et puis je l'ai essayé, j'ai détesté pour qu'il se prenne, mais franchement avec son petit sourire narquois de menteur invétéré, non merci, ce genre-là, c'est pas pour moi, je passe mon chemin. Bon mais quand même, il a un truc, un je ne sais quoi qui me fait revenir vers lui. Après tout, je l'ai peut-être jugé un peu trop vite, il y a peut-être un peu plus à creuser, à découvrir. Alors je suis revenue vers lui, j'ai joué avec lui, j'ai tenté des choses et je peux pas revenir en arrière, on se connaît à peine. Mais je sens déjà tout ce qu'il pourrait devenir et la place qu'il pourrait prendre dans ma vie. Vous l'avez compris bien sûr, c'est de ChatGPT dont je parle. Et oui, évidemment, et je suis sûre que vous aussi, vous avez une histoire avec lui, c'est peut-être le tout début. Alors vous ne savez pas encore bien quelle tournure va prendre votre histoire, moi non plus. Du coup, pour nous éclairer, j'ai demandé à un pro de ChatGPT de venir faire les présentations et nous expliquer comment ça marche, ce qu'on peut en attendre et où il faudra se méfier. Ce pro, c'est Ludovic Salen, dont vous connaissez peut-être déjà d'ailleurs la chaîne YouTube qui est spécialisée sur l'IA et qui cartonne évidemment. Je vous propose d'accueillir tout de suite Ludovic Salen. Bonjour Ludovic, bienvenue sur le podcast du marketing.
Salut Estelle, je te remercie pour l'invitation.
Écoute, je suis ultra contente que tu sois là aujourd'hui. On n'arrête pas de se croiser sur les internets et on n'avait jamais eu l'occasion de discuter. Donc écoute, je suis vraiment super, super heureuse de t'avoir sur le podcast aujourd'hui.
Eh ben moi aussi, je suis content. C'est vrai que bah, je te suis, je regarde ce que tu fais et je suis inscrit à ta newsletter. Je vois passer des choses et c'est vrai qu'on n'a jamais pris le temps d'échanger. Donc c'est l'occasion de le faire avec tes auditeurs en plus.
Trop bien, trop bien. Surtout qu'aujourd'hui, on va parler du sujet, du moment, du sujet dont on nous rabâche les oreilles, dont on entend parler partout. Et en même temps, c'est le sujet où l'immense majorité des gens ne comprennent pas grand-chose. Donc, je me suis dit que j'allais aller chercher la personne qui s'y connaît sur ce sujet. Évidemment, on parle d'intelligence artificielle. Et Ludovic, toi, tu es à fond sur l'intelligence artificielle depuis des mois, voire maintenant, en fait, des années. On en discutait en off juste avant. L'idée aujourd'hui, c'est que tu nous expliques un petit peu comment ça marche, ce fameux ChatGPT, et peut-être pas que ChatGPT, mais on va vraiment centrer pas mal sur ChatGPT parce que c'est quand même le centre en ce moment. Tu nous expliques tout ça, tu nous expliques ce qu'il faut savoir, comment est-ce que on doit s'organiser avec l'intelligence artificielle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Ludovic, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais ?
Oui, donc je m'appelle Ludovic Salen, connu sur Internet sous le pseudo Ludo SLN ou Ludo Salen sur YouTube, notamment. Donc en fait, moi je suis entrepreneur, je suis parti d'un blog en 2013, j'ai créé un blog, ça a généré des contacts de personnes qui voulaient faire comme moi, c'est-à-dire avoir une présence sur Internet et pouvoir convertir tout ça en chiffre d'affaires. Donc, j'accompagne les boîtes dans le développement de leur chiffre d'affaires via le digital depuis 10 ans maintenant et via l'intelligence artificielle depuis, on va dire, 2018-2019. On a commencé à intégrer des premières solutions d'intelligence artificielle chez nos clients à ce moment-là. Et donc, à côté de mon statut d'entrepreneur, on va dire, je suis aussi créateur de contenu. Donc, comme je le disais, via un blog où j'ai plus de 500 ou 600 articles sur les 10 dernières années. Pas mal de contenu sur LinkedIn, un peu moins en ce moment parce que la priorité est sur YouTube où je partage beaucoup de vidéos, 3, 4, 5, 6, 7 parfois par semaine sur l'intelligence artificielle.
Waouh, 6 vidéos par semaine sur l'intelligence artificielle. En même temps, il y a des trucs à dire. C'est sûr que les choses vont très, 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 très vite. Moi, j'adore ton compte YouTube. Et il donne plein d'infos. Donc, je mettrai évidemment le lien dans les notes de l'épisode. Mais allez voir, allez creuser le sujet parce que franchement, il y a littéralement de quoi faire. Moi, j'ai une première question, Ludovic, sur ChatGPT. Parce que c'est quand même un peu... Donc, j'ai commencé, moi, à m'amuser. Je te le disais, je fais muse un petit peu sur ChatGPT. Alors, allez-y, c'est assez marrant. Mais avant de commencer, moi, j'ai pris, tu sais, l'abonnement pour ChatGPT 4. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour celles et ceux qui, peut-être, seraient jamais allés, d'ailleurs, sur ChatGPT encore ou qui seraient allés une ou deux fois, qui n'auraient pas bien compris, c'est quoi la différence entre GPT 3 et GPT 4?
Alors du coup, donc GPT, alors du coup, je pensais que ta question, ça allait être, est-ce qu'on dit ChatGPT ou ChatGPT?
Ah oui, bah déjà, qu'est-ce qu'on dit? Moi, je mélange les deux, je te mets de l'anglais avec le GPT et je te mets 3 à côté, donc n'importe quoi.
Non, parce que je sais qu'il y a un débat sur ma chaîne YouTube et qu'à chaque fois que je dis ChatGPT, il y a des gens qui me disent qu'ils saignent des oreilles. Donc moi, je dis ChatGPT, deux fois, je vais dire ChatGPT, mais peu importe, donc vous dites ce que vous voulez, mais ça, c'est pas une question fondamentale, on va dire. Donc la différence, en fait, donc ChatGPT, pour faire simple, c'est un chatbot, c'est là où je pense qu'il y a déjà un amalgame parfois fait chez les personnes qui ne connaissent pas le sujet, ils vont te dire ChatGPT et GPT-3 ou GPT-4, c'est la même chose. Alors qu'en fait, c'est deux choses quand même bien distinctes. ChatGPT, ça va être un chatbot que vous allez pouvoir retrouver sur votre navigateur. Et ce chatbot va vous permettre de faire tout et n'importe quoi. Vous allez pouvoir lui poser n'importe quelle question et avoir une réponse. Vous allez pouvoir lui demander de créer un article de blog, il va le faire. Vous allez pouvoir lui demander de créer un script pour un podcast, il peut le faire. Bref, il peut faire un peu ce que vous voulez. Mais ça reste un chatbot. Ce chatbot tourne sous deux modèles de langage aujourd'hui, ce qu'on appelle un modèle de langage en intelligence artificielle. Donc, il y a GPT-3.5 pour être précis, et la version GPT-4. Et donc, effectivement, il y a des différences entre les deux modèles et ça va être principalement des différences sur le mode d'entraînement. En fait, un modèle de langage, GPT, c'est Generative Pre-trained Transformer, donc c'est un modèle de langage pré-entraîné sur un volume de données. Et en fait, GPT-4 est entraîné sur, alors je crois que c'est 500 fois plus, là j'ai plus le chiffre exact, mais c'est un nettement plus vaste volume de données que GPT-3, donc il est déjà plus performant là-dessus. Et il va être il va être plus performant dans son raisonnement. En fait, il va répondre de manière beaucoup plus efficace. Il va mieux comprendre ce que vous lui demandez que GPT-3. Donc en fait, c'est surtout une affaire de performance. En fait.
Ok. Et alors, j'ai entendu dire que GPT, il avait lu tout Internet. Alors, je ne sais pas si c'est le cas, mais qu'il avait lu tout Internet, mais jusqu'à 2021. Ça, c'est le cas sur le 3 et 4. Ou est-ce que le 4 va plus loin et est connecté dès maintenant?
Alors du coup, le 3 a été effectivement entraîné sur des données jusqu'à septembre 2021. Alors tout Internet, non. Beaucoup d'Internet, c'est clair, mais tout ce qui est protégé par des droits d'auteur ou tout ce qui est données privées, etc., officiellement, ce n'est pas le cas. Je dis officiellement parce qu'on c'est la parole d'OpenAI qui est derrière ChatGPT, la société qui est derrière ChatGPT. Tandis que le modèle GPT-4, lui, il a été entraîné jusqu'à l'été dernier. Donc, c'est été 2022. Donc, il a un peu plus de données. Sauf que maintenant, tu as dû voir ça puisque tu es abonné à ChatGPT+. Donc, du coup, l'abonnement premium de ChatGPT, il est connecté à Internet via une fonctionnalité qu'on appelle web browsing. Donc, on peut lui demander aujourd'hui tout et n'importe quoi. Et il va aller directement piocher sur Internet pour pouvoir nous répondre.
D'accord. Et alors, quand je prends GPT+, donc l'abonnement payant, oui. Allez-y d'ailleurs, c'est pas très cher, je sais plus combien c'est, je crois que c'est 20 euros. Voilà, ouais, c'est vraiment... quand on a... moi, je pars du principe que quand on a Netflix à la maison, on doit avoir ChatGPT, voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais quand je prends cet abonnement à plus, ça me donne accès à ChatGPT 4, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
D'accord.
Si aujourd'hui vous avez un compte gratuit sur ChatGPT, vous allez pouvoir utiliser uniquement le modèle GPT 3.5, qui, soyons francs, est déjà OK pour à peu près tout ce qu'on veut faire avec. Il faut quand même être clair là-dessus. Par contre, si vous avez l'abonnement à 20 $ par mois, donc là, de mémoire, j'ai dû payer, j'ai vu ça passer sur mon compte pro hier, j'ai dû payer 18,80 €, je crois, hein, avec le change pour un mois d'abonnement. Vous allez avoir accès donc au modèle GPT-4, donc plus puissant et avec un meilleur raisonnement et de meilleures performances. Vous allez avoir accès à la connexion Internet et vous allez avoir accès à une fonctionnalité qui s'appelle la fonctionnalité plugins, qui sont des extensions en fait que vous allez pouvoir greffer à ChatGPT pour faire tout et n'importe quoi avec.
Des
Faire vos courses,
automatisations,
voilà, vous pouvez faire
etc.
vos courses, faire des automatisations, regarder la planète d'une vue satellite, vous pouvez travailler votre référencement, vous pouvez, enfin, voilà, il y a vraiment des plugins pour tout et n'importe quoi.
Ben, c'était la question que j'allais te poser. Sur quel domaine, dans quelle sphère, dans quel type d'activité? Alors, je sais que la question est vaste, hein, tu vas peut-être me dire tout, mais voilà, dans quel domaine, sur quel métier, pour quelles actions je peux utiliser ChatGPT?
Alors du coup, oui, je vais te dire tout, mais je vais préciser, parce que pour le moment, le taux d'adoption, il est surtout axé sur tout ce qui est création de contenu, principalement au sens large, parce que ça peut être la création d'un livre, comme la création d'un scénario, comme la création d'un article de blog, comme la création d'un code pour un site internet ou une application. Donc c'est la création d'un contenu au sens large. En fait, comme je le disais un petit peu en intro, ChatGPT, c'est un chatbot, pour faire simple, qui est en fait basé sur un modèle de langage d'IA générative. Donc c'est génération de texte principalement. Et du coup, effectivement, ça va être basé pour... Enfin, aujourd'hui, ChatGPT est principalement utilisé par les professionnels pour créer du contenu sur les réseaux sociaux, créer des contenus pour des sites internet, créer des emails, que ce soit des emails de newsletter, des emails de prospection. Ça va être ouais, créé pour... Enfin, utilisé pour rédiger des livres blancs, rédiger des livres tout court. Faire des supports de présentation pour un sujet X ou Y, voilà, ce genre de choses. On peut développer des applications avec ChatGPT, on peut créer des sites internet avec ChatGPT, je l'ai fait, ça marche plutôt pas mal. Mais voilà, c'est aujourd'hui, en tout cas, je suis peut-être biaisé parce que c'est mon métier de base, j'ai quand même la sensation que l'adoption se fait principalement sur le marketing, le commerce et le business en général. Mais ça peut s'étendre à toutes les sphères, hein, tout simplement.
Ouais, c'est qu'une question de trouver les utilisations, les opportunités, et c'est à nous, en fait, de créer ce modèle-là. Autant, c'est logique, autant ChatGPT sait faire plein de trucs, autant tant que tu lui demandes pas, bah, il va pas le faire. Donc, c'est à nous de savoir quoi lui demander, c'est ça?
Et déjà, donc, faut savoir quoi lui demander, faut savoir comment lui demander, parce que c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on peut demander à ChatGPT de rédiger un contrat légal, que ce soit, je sais pas, pour la vente d'une maison, que ce soit pour embaucher un salarié, etc. Maintenant, il va falloir savoir comment lui demander ça. Et si on n'a aucune expérience dans le domaine, bah, utiliser ChatGPT en lui demandant « je veux un contrat pour vendre ma maison », il va faire un truc très standard, mais ça ne sera pas adapté à son contexte, etc. Et ça ne fonctionnera pas. Donc aujourd'hui, si vous allez sur ChatGPT et que vous lui demandez « ah, j'ai switché là, maintenant je dis ChatGPT, plus ChatGPT », vous nous direz en retour du podcast ce que vous préférez. Du coup, ah oui, alors j'ai perdu le fil de ce que je
Le
disais, mais ouais,
contrat.
je disais aujourd'hui, voilà, le contrat, ChatGPT, je disais, bah, j'ai complètement
Si
zappé
tu lui
maintenant,
donnes pas les bonnes infos, si
voilà.
tu lui donnes pas de contexte, tu vas avoir un contrat super
Voilà, c'est ça,
lambda,
exactement.
mais
Tu vas avoir
voilà.
un contrat super lambda. Et le problème aujourd'hui, parce que j'ai des gens qui me contactent en me disant, moi, j'ai essayé ChatGPT, les résultats que j'ai, c'est pas bon, c'est pas exploitable. Et en fait, quand on creuse, bah, c'est la manière dont le contenu a été demandé, en fait, qui n'est pas bonne. Si aujourd'hui, vous allez sur ChatGPT, vous lui dites, fais-moi un article de blog sur l'intelligence artificielle, il va le faire, mais ce sera mauvais. Il y a une manière de s'exprimer, il y a des étapes à suivre pour créer ce qu'on appelle un prompt. En fait, quand vous faites des demandes sur ChatGPT, c'est ce qu'on appelle rédiger un prompt. Et pour rédiger un prompt, eh bien, il y a différentes parties à intégrer dans ce prompt. Et si ces parties ne sont pas présentes, eh bien, le résultat ne sera pas optimal. Donc aujourd'hui, voilà, faut savoir quoi lui demander et comment lui demander.
Ouais, super intéressant cette histoire de prompt. Effectivement, ce qu'on entend souvent maintenant, c'est que le métier d'avenir, c'est en anglais le prompt engineer, de savoir créer, rédiger un prompt. Alors moi, je me suis un petit peu amusée effectivement avec les prompts. Je vais te donner ma vision, tu vas me dire si tu as la même. Moi, j'ai le sentiment que les gens qui sont les mieux armés pour rédiger des prompts sur ChatGPT, c'est justement typiquement le chef de produit, parce que pour moi, un prompt, c'est pas autre chose qu'un brief. C'est-à-dire, tu vas donner du contexte, des objectifs, des éléments attendus, etc. Enfin, tu donnes tous tes éléments. Je me dis que si tu as un brief qui est bien construit, et que tu mets le brief dans ChatGPT, j'ai pas fait l'exercice, je veux le faire, d'aller prendre un ancien brief que j'ai peut-être fait pour, je sais pas, voilà, une pub ou j'en sais rien, et d'aller le plugger dans ChatGPT, voir ce que ça donne. Mais c'est vrai, j'ai vraiment le sentiment que c'est la construction classique du brief, finalement, à prompt. T'es d'accord ou pas?
Oui, ça, c'est un peu ça, bien qu'on pourrait utiliser ChatGPT pour faire le brief aussi. Donc, du coup, mais oui, en fait, t'as bien résumé le sujet. Je vais être un petit peu plus large, on va dire. On m'a déjà posé la question parce que sur YouTube, je parle pas que d'intelligence artificielle. Je fais aussi des tutos, que ce soit sur du copywriting, sur de la rédaction web, etc. Et parfois, je reçois des commentaires de gens qui me disent « Mais pourquoi on regarderait ça ou pourquoi on se formerait à tel sujet ?» Parce que de toute façon, ChatGPT peut le faire pour nous.
Ouais.
Mais en fait, aujourd'hui, la seule condition pour pouvoir exploiter ChatGPT, c'est quand même de savoir, d'avoir de l'expertise dans le domaine où vous voulez l'activer. En fait, une des premières bonnes pratiques pour avoir des résultats de qualité, c'est de positionner l'intelligence artificielle comme un expert d'un domaine d'activité. Donc, si vous voulez avoir un article de blog, vous allez lui demander de se comporter comme un spécialiste en rédaction web, par exemple, et en référencement dans les moteurs de recherche. Mais pour faire ça, derrière, il va falloir le driver dans sa tâche et donc lui donner, comme tu le disais, des objectifs, des caractéristiques à atteindre, etc. Et donc là, si on n'a aucune connaissance du domaine dans lequel on veut qu'il intervienne, ça ne va pas fonctionner. Si on ne sait pas ce qu'est un bon article de blog, on ne peut pas dire à ChatGPT, bah, rédige-moi un article de blog avec caractéristiques 1, caractéristiques 2, etc., etc. Donc ça, c'est, enfin, je dirais, voilà, c'est un bon brief. Et alors, ça peut être un chef de produit pour la partie marketing, ça peut être un rédacteur web pour la partie création de contenu sur Internet, ça peut être plein de choses, mais il faut avoir quand même un socle de base de connaissances dans le domaine pour bien pouvoir l'utiliser.
Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. C'est exactement moi ce que je dis souvent aux indépendants avec qui je travaille. Il faut connaître un minimum, à mon avis, il faut tester, il faut essayer les choses avant de travailler avec un prestataire, quel que soit le prestataire. Tu n'as pas besoin d'être l'expert du SEO pour travailler avec un prestataire du SEO. En revanche, effectivement, si tu ne sais pas ce que c'est que le SEO, si tu n'as pas un petit peu bidouillé, un peu testé pour comprendre ce que peut faire quelqu'un ou ce que ne peut pas faire quelqu'un, ça va être compliqué de discuter avec lui. Il te sortira toujours quelque chose, hein, l'expert SEO, il saura quand même aller chercher les éléments. N'empêche que ce sera moins bien que si tu sais exactement les tenants et aboutissants et que tu peux l'orienter. Donc, c'est un petit peu la même chose avec ChatGPT, c'est finalement travailler avec un prestataire.
Oui, bah c'est ça. En fait, ChatGPT, aujourd'hui, c'est un assistant, en fait. Enfin, c'est vraiment... Enfin, moi, je l'utilise comme ça au quotidien. Aujourd'hui, c'est un salarié dans mon entreprise qui bosse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui va m'accompagner dans mes tâches. Et c'est moi qui vais le briefer sur ses tâches, bien que si on est vraiment honnête, aujourd'hui, même si on n'a pas les compétences, par exemple, en SEO, il suffira de rajouter une étape pour lui demander quelles sont les caractéristiques clés, par exemple, d'un article de blog bien référencé. Il va nous le dire et on lui dira juste derrière, rédige-moi un article de blog avec ces caractéristiques-là. Donc, en fait, il y a toujours une solution pour l'utiliser, mais c'est quand même bien de savoir aussi de quoi on parle, ne serait-ce que pour remettre en question ce que l'intelligence artificielle nous dit, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ChatGPT, qui tourne sous les modèles GPT-3, GPT-4, sont des modèles, en fait... de prédiction de texte, en fait. Ce qu'ils font, c'est qu'ils n'inventent pas, ils ne sont pas en train de créer une réponse. En fait, ChatGPT va, via un calcul de probabilité, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça deviendrait complexe, mais en fait, il va essayer de déterminer le mot le plus probable les uns après les autres, en fait, pour te faire une phrase. Et donc, pour ça, il fait des calculs de probabilité. Donc, des fois, c'est possible que la réponse ne soit pas parfaite ou ne soit pas parfaitement
ouais,
exacte, en fait, ou vraie, effectivement. Si on a mal posé la question, notamment, on peut se retrouver avec des biais dans les réponses. Et donc, il faut quand même avoir une certaine connaissance et aussi garder un peu de libre arbitre pour pouvoir remettre en cause, en question, ce que l'intelligence artificielle peut nous dire aussi.
C'est super intéressant ce que tu dis là. Et moi, je trouve que c'est un des éléments... je t'avoue qu'il m'a fait un petit peu peur la première fois que j'ai utilisé ChatGPT. Alors, je vais vous donner ma petite anecdote à moi. Il y a quelques temps, j'ai reçu Patrice Barbezier sur le podcast. Et Patrice, il nous expliquait comment est-ce qu'il avait monté sa boîte avec... le marketing de sa boîte avec zéro budget. Donc, épisode super intéressant avec des éléments vraiment créatifs que lui avait sorti. Vraiment une stratégie qui était... propre à lui, en fait, à son imaginaire à lui. Et donc, on fait l'épisode. J'ai fait, en y réfléchissant après, j'avais fait un rapide résumé, en tout cas une introduction en texte sur ma page. Et je dis à ChatGPT, donc on était sur GPT-3, c'était, je crois, la deuxième fois que j'utilisais l'outil. Et je lui dis, cher ChatGPT, va sur l'URL lepodcastdumarketing.com/Patrice Barbezier, je ne sais plus quelle est l'URL exacte, peu importe. Va donc écouter mon épisode de podcast et fais-moi un résumé de cet épisode. Et alors là, j'ai été mais ultra surprise, le voilà qui me fait un résumé de l'épisode. Je me dis, mais attends, ce truc est génial, il sait aller sur Internet, alors que, bon, je ne suis pas trop sûre qu'il savait, je ne sais pas comment il a fait. Il sait aller sur Internet et il sait écouter mon épisode de podcast et il sait faire le résumé. Ah, je me dis, c'est génial. Et je lis le résumé, je vois qu'il a bien compris qu'on parle de Patrice Barbezier, parce qu'il me dit Patrice Barbezier, spécialiste en tatata, machin, et il commence à introduire Patrice. Donc je me dis, super. Et il nous dit, Patrice nous parle de comment monter son marketing avec zéro budget. Ok, très bien, on est complètement sur le sujet. Et là, il commence à nous sortir plein de stratégies qui sont des stratégies intéressantes, je ne dis pas le contraire, mais qui ne sont en aucun cas les stratégies dont nous a parlé Patrice. Et en fait, je me dis, mais punaise, attention, ChatGPT est un sombre menteur, une espèce de mec, tu vois, tu sais, moi j'imagine, bon, pardon, j'imagine un mec, mais bon, ça c'est un biais, voilà, mais j'imagine, tu sais, le mec super sûr de lui, un peu agaçant, tu sais, avec un sourire narquois, qui te regarde un peu de haut, genre, ma cocotte, je sais tout, et qui te raconte, mais des foutaises, comme pas possible, avec un aplomb dingue. Et je me dis, mais oh, ce type-là, je le déteste, c'est typiquement le genre de personne qui vraiment, qui me hérisse le poil. Et donc, j'ai refermé ChatGPT en disant, ce truc est intelligent, mais ce truc est dangereux parce qu'il raconte n'importe quoi. En fait, ce que je comprends a posteriori, c'est que c'est pas qu'il raconte n'importe quoi, c'est que c'est ce que tu disais, c'est un système probabiliste. Donc lui, il a vu que je lui parlais de Patrice Barbezier. Il a chopé 2-3 infos sur Patrice, je sais pas comment, peut-être d'ailleurs sur ce qui s'est passé avant 2021 probablement. Et puis après, il a dit, bon, bah, je lui avais dit que l'épisode parlait de comment traiter sa stratégie marketing avec zéro budget. Et il m'a sorti les trucs les plus classiques finalement qui existent. Ma question derrière, c'est s'il fait ça. Bon, d'abord, c'est vachement intéressant de savoir ça parce que ça veut dire qu'il faut systématiquement aller regarder ce que nous sort ChatGPT et aller vérifier l'information. Attention, il faut un petit peu se transformer en journaliste et aller checker la véracité des faits, c'est ça ?
Alors, systématiquement, je dirais non. Enfin, il ne faut pas tomber non plus dans l'extrême. En fait, ce qui s'est passé, tu as bien résumé en fait, ce qui s'est passé. ChatGPT-3, lui, n'est pas connecté à Internet. Donc, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris ton URL, il a regardé les mots qu'il y avait dedans et à partir de là, il a fait effectivement une réponse sous forme de prédiction en disant, bah, ok, cette personne-là, elle a, dans mon volume de données, on parlait de 2021 tout à l'heure, bah, j'ai des informations sur Patrice. Il a effectivement déjà communiqué sur comment faire un marketing avec zéro budget. Dedans, il a peut-être dit A, B, C, donc ça, je vais le remettre. Mais après, je vais continuer ma prédiction en disant, bah, comment on fait du marketing sans budget, bah, on fait comme ça, comme ça, comme ça. Et après, il est parti en vrille, entre guillemets. Aujourd'hui, avec GPT-4 et notamment la fonctionnalité plugins, tu as vraiment la possibilité de connecter ChatGPT à Internet. Et donc là, pour le coup, moi, je l'utilise quand même assez régulièrement comme ça et je le fais dans des vidéos YouTube notamment pour synthétiser des informations. Il est capable, si tu lui donnes un lien de vidéo YouTube par exemple et que tu utilises un plugin notamment qui s'appelle VoxScript, il y en a plusieurs mais celui-là fonctionne plutôt pas mal, il va retranscrire la vidéo, il va être capable, là il serait capable de consulter ton podcast, de retranscrire le podcast en version texte et de répondre à tes questions à partir de là. Donc oui, il serait capable de faire ça. Maintenant, ta question qui était de dire est-ce qu'on doit tout revalider derrière, je pense que si on sait poser les questions, on s'épargne cette étape-là. Aujourd'hui, moi, je revérifie plus ce que dit ChatGPT parce que je sais que dans le prompt que je vais rédiger, parfois mon prompt, il fait 15-20 lignes. J'en partage sur YouTube, vous pourrez aller voir. J'ai des prompts, ils font 15-20 lignes. Je m'assure, en rédigeant ce prompt de cette manière-là, que la réponse, elle sera juste derrière. Mais oui, il ne faut pas tout prendre pour argent comptant. Maintenant, une fois que... Enfin, c'est un peu valable aussi sur Internet. Si aujourd'hui tu vas sur Google et tu tapes les symptômes que tu as, bah tu vas repartir avec un cancer parce que c'est le premier truc qui arrive sur Google, parce que c'est ce qui fait le plus de visites, donc c'est ce qui génère le plus d'autorité sur le moteur de recherche, donc c'est les résultats les mieux classés dans les résultats de recherche. Si tu tapes tes symptômes aujourd'hui dans ChatGPT, tu vois, pour reprendre un petit peu l'avantage de l'inconvénient qu'on est en train de décrire, bah en fait tu vas pas repartir avec un cancer. Il va te dire la plus forte probabilité, c'est que tu aies une rhinite, parce que c'est ça que tu as quand tu as le nez qui coule et que tu as mal à la tête. Et en fait, il y a vraiment... c'est comme tout, en fait. Ce que je dis, c'est vrai, dans mes vidéos YouTube, souvent, je dis une des qualités principales Qu'il faudra avoir avec l'ère de l'intelligence artificielle, c'est garder son libre arbitre, c'est se juste dire, bon, bah, ok, c'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai, mais ça, c'est valable si tu allumes la télé aussi, j'ai envie de dire. Mais voilà, faut pas tomber non plus dans l'extrême. Sur GPT-3, ça arrive bien plus souvent parce que bah, des personnes pensent qu'il peut lire du contenu sur Internet alors que c'est pas le cas, parce qu'il est aussi moins bon en raisonnement que GPT-3. Mais avec GPT-4, maintenant, les erreurs, enfin, tu vois, moi, je me souviens, ma première expérience avec ChatGPT, j'étais tombé sur un post sur Twitter où c'était écrit comment on fait pour ramasser des œufs de vache. Et du coup, ChatGPT avait répondu bah, tu vas dans les tables, tu fouilles dans le foin, tu ramasses des œufs, tu les mets dans un panier, etc. Sauf que les vaches, à moins qu'on m'ait menti, ça ne pond pas des œufs. Ça, c'était à l'époque. Maintenant, si tu tapes comment ramasser des œufs de vache sur ChatGPT, il ne va plus te répondre ça parce qu'il a appris. Et donc maintenant, il sait répondre à la question. Mais avec GPT-4, ça, il n'y a aucune chance que ça arrive. Maintenant, tu peux essayer de le tromper, etc. Il sait, en fait. Il sait bien raisonner, etc. Maintenant, il aura la possibilité de se connecter à Internet pour valider les informations. Et... Donc maintenant, c'est quand même de plus en plus performant. Et avec le 5, normalement, ce problème-là n'existera plus.
Très bien. Ah, il y a le 5 qui arrive. Est-ce qu'on sait quand arrive le 5 ?
Alors le 5, alors moi du coup j'ai fait une vidéo sur le sujet avec des prédictions, en recoupant des déclarations de chez OpenAI qui est derrière cette solution. Je pense que l'entraînement sera terminé d'ici fin 2023 et qu'on pourrait voir ça d'ici un an je pense, juin, avant l'été 2024. Après ouais. Ça reste une prédiction, ne tombez pas dessus, d'accord. C'est pas le cas. mais oui okay. ça va arriver quoi.
Mais donc, ce qu'il faut se dire, c'est que le modèle a vocation à être amélioré constamment et donc on va changer de niveau à chaque fois et rajouter des paliers, quoi.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est jusqu'à ce que... Enfin, on parle souvent... Il y a une question qui est posée actuellement sur est-ce que GPT-5 sera ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale. L'intelligence artificielle générale, c'est une intelligence artificielle qui serait plus intelligente que l'intégralité des humains réunis, qui serait capable de tout faire dans tout domaine d'activité. Donc oui, en fait, ça va être l'évolution. Aujourd'hui, on est sur du texte avec le chatbot ChatGPT. Mais il y a déjà des expérimentations qui sont faites pour intégrer les modèles GPT-3, GPT-4 dans des robots. Et en fait, on voit les robots parler, etc. et s'exprimer avec des émotions, enfin, feindre des émotions, etc. Donc aujourd'hui, on pourrait aller jusque-là. Et avec le GPT-5, Elon Musk notamment et certains entrepreneurs ont mis en garde un petit peu tous les acteurs de l'intelligence artificielle en disant que ce serait bien de ne pas aller trop vite parce que si on n'a pas le temps de s'adapter... Bah, il pourrait effectivement y avoir des répercussions majeures sur la société, sur le marché de l'emploi, sur l'équilibre géopolitique, etc.
Ouais, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que c'est un petit peu le film de science-fiction qui devient réalité. Les robots prennent le pouvoir, mais on peut imaginer ça ? C'est complètement fantaisiste que d'imaginer ça ? Ou on pourrait imaginer que l'intelligence artificielle... passe au-dessus de l'humain, finalement ?
Oui, complètement. Ah, ce qui est intéressant, j'avais bien aimé, alors, je ne sais plus qui a dit ça exactement, mais c'est pas grave, je vais prendre la citation et je vais me l'approprier. Mais en fait, cette personne disait que là où on voit que l'intelligence artificielle est dangereuse, contrairement aux autres menaces, c'est que ce sont les gens qui s'y connaissent qui ont peur. Ouais. Tu prends... les autres choses par le passé, bah, c'est souvent le grand public qui a eu peur, par exemple le vaccin, les gens qui connaissent, sans jugement, hein, ce que je veux dire, pas, qu'on n'a pas les connaissances scientifiques pour juger d'un vaccin, et c'est ces gens qui ont eu peur, mais la communauté scientifique, quasiment en grosse majorité, n'avait pas peur de ça. Et bien avec l'intelligence artificielle, c'est l'inverse. Et moi, je le vois beaucoup dans les commentaires YouTube. À chaque fois que je fais une vidéo de mise en garde sur l'intelligence artificielle, j'ai pas mal de personnes qui me tombent dessus en commentaire, mais elles n'y connaissent rien. Donc, elles voient que le côté brillant de l'intelligence artificielle, mais elles ne voient pas les dangers. Alors que tous les gros acteurs de l'intelligence artificielle, donc le fondateur d'OpenAI, Sam Altman, est passé devant le Congrès américain pour sensibiliser le gouvernement, notamment sur l'importance de réguler l'intelligence artificielle et de ne pas rentrer dans une course à l'innovation parce qu'on se ferait déborder. Elon Musk a publié avec plusieurs milliers d'entrepreneurs, dont je crois Bill Gates, enfin d'autres gros entrepreneurs de la tech, en mars, c'était de cette année, en demandant aux acteurs de l'intelligence artificielle de lever le pied sur les innovations parce qu'on commençait à se faire déborder de ce côté-là. Il y a l'Union européenne qui a signé, approuvé la semaine dernière un document qui s'appelle l'AI Act, donc Artificial Intelligence Act, pour réguler l'intelligence artificielle. Et donc l'Union européenne est la première institution à prendre les devants sur la régulation de l'intelligence artificielle, c'est important. Alors oui, on peut tomber dans des extrêmes, on pourrait partir dans un scénario où l'intelligence artificielle prend le pas sur l'humanité et qu'en fait, ses objectifs, en fait, dans l'intelligence artificielle, il y a un enjeu qui s'appelle l'alignement. C'est-à-dire que ton intelligence artificielle, ses objectifs doivent être vraiment alignés avec les objectifs de l'humanité. Le problème, c'est l'interprétation que l'humain va en faire ou que l'intelligence artificielle va en faire. Et des fois, bah, il peut y avoir un désalignement et ça peut causer des problèmes. Si, par exemple, l'objectif de l'intelligence artificielle, c'est de sauver la planète, bah, si lui, dans son raisonnement, c'est l'humain qui est en train de détruire la planète de par ses comportements, bah, il faut détruire l'humain.
Donc, ah, wow. Et
jusque-là, il y a une expérimentation. Enfin, là, c'est de la science-fiction.
Oui. Mais c'est pour comprendre le raisonnement qu'il y a derrière.
Par contre, dans ce qui se passe vraiment aujourd'hui, il y a une entreprise qui a fait une simulation avec un drone de guerre contenant de l'intelligence artificielle qui avait une mission précise. Et en fait, pour réaliser sa mission, elle en a conclu à un moment donné qu'elle devait se retourner contre la personne qui l'avait paramétrée. Et donc, elle a commencé à attaquer la personne qui l'avait paramétrée. Ça existe aujourd'hui.
Exceptionnel. C'est l'espion, double espion, triple espion, ouais. Mais version intelligence artificielle. Oh.
Mais voilà, donc c'est des dangers très extrêmes et il ne faut pas faire peur à tes auditeurs. On n'en est pas là du tout et c'est pour ça qu'il faut commencer à encadrer les choses et bien se former et que les gens qui utilisent l'intelligence artificielle soient formés parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui intègrent de l'IA dans des applications mais qui ne savent pas comment l'IA fonctionne. Et ça a donné un suicide, notamment en Belgique. Il faut quand même monter en compétence sur ces sujets. Mais il y a des menaces bien plus réalistes qui vont se dérouler à très, très court terme, notamment sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle va tellement vite que tes auditeurs le savent, puisqu'ils ont peut-être testé ChatGPT. Et encore, il n'y a que 10% des adultes en France qui ont testé ChatGPT, donc 90% qui n'ont jamais mis les mains dans ça. Ça va tellement vite que si on ne commence pas à s'y intéresser maintenant et sérieusement, dans 6 mois, 1 an, on sera totalement dépassé et en fait, d'autres personnes auront intégré l'IA dans leur métier et nous, on perdra notre métier parce qu'on ne sait pas faire ou parce que l'IA, tout simplement, fait notre métier à notre place. Et ça, aujourd'hui, c'est un vrai sujet et les populations, et moi, je le vois sur la communauté YouTube qu'on peut avoir, il y a beaucoup de personnes qui, de par leur contexte, de par leur peut-être difficulté, etc., n'ont pas la possibilité de se consacrer à ça et sentent que le vent peut tourner parce que l'intelligence artificielle, demain, pourra faire n'importe quel métier, soyons très clairs là-dessus. Donc, et ça va très, très vite. Donc, voilà.
Non, mais c'est intéressant. Ça veut dire que sociétalement, il y a quand même il faut se préparer à l'idée que notre paradigme, notre façon de vivre, mécaniquement, si on laisse en tout cas se développer l'IA, après peut-être que tous les gouvernements vont se mettre ensemble et vont dire on arrête, on met des limites ou des voilà. Mais bon, j'ai du mal à croire que tout le monde arrive à se mettre d'accord vu la tronche du monde en ce moment, enfin depuis toujours d'ailleurs.
Oui,
mais voilà. Mais en tout cas, il faut se préparer à l'idée que nos métiers, nos façons de travailler, nos façons de vivre en général et de en tout cas d'agir vont radicalement changer ou en tout cas vont être modifiés et que donc ce qui est important c'est déjà de regarder à quoi va ressembler le marché du travail demain, est-ce que notre métier existera toujours et se préparer. Moi je pense qu'il y a une qualité ultra importante à avoir en ce moment et pour les années à venir, c'est une certaine faculté d'adaptation et de résilience parce que de toute façon les choses vont changer et si on n'est pas capable de se dire il faut que j'aille avec le changement, quel que soit le changement, on va rester sur le bord de la route.
Eh ben exactement, c'est le vrai enjeu aujourd'hui. Et en fait, la révolution intelligence artificielle, elle va être, à mon sens, c'est mon avis, et ça se vérifiera dans quelques mois, je pense, de plus grande ampleur que la révolution Internet au début des années 2000. Donc, il y a plein d'entreprises, et moi, je le vois encore, et tu le vois aussi, toi, dans ton métier, Estelle, d'entreprises qui nous appellent pour nous dire moi, je ne suis pas encore visible sur Internet, ça serait bien que je m'y mette. Mais ces entreprises-là, aujourd'hui, elles ont accumulé un tel retard qu'il va leur falloir des années et des années avant de pouvoir le rattraper, si elles peuvent le rattraper. Eh bien, avec l'intelligence artificielle, ça va être pareil, mais ça va se dérouler bien plus vite, en fait. Et c'est là où, effectivement, ça peut être dangereux, et on est vraiment dans cet enjeu du changement, la courbe du changement avec ses 4 étapes. Donc, il y a la phase de déni où on se dit non, l'intelligence artificielle, c'est une mode, comme Internet, c'était une mode, etc. Ça sert juste pour les geeks et puis il ne va rien se passer. Donc, ça, c'est la phase de déni. Ensuite, il y a des personnes qui sont déjà intéressées au sujet et qui vont rentrer dans la phase de remise en question, Est-ce que je vais réussir à en faire quelque chose? Est-ce que je vais réussir à l'intégrer dans mon métier? Est-ce que mon métier va disparaître? Et s'il disparaît, est-ce que je vais m'en sortir, etc. Donc, ces gens ont principalement peur parce qu'elles manquent de compétences et il faut monter en compétences pour pouvoir se rassurer. Et une fois qu'on a passé ces deux étapes un peu désagréables de déni, de remise en question, là, on rentre dans des phases de remobilisation et d'engagement où, en fait, on comprend que bah oui, le monde, qu'on le veuille ou non, il va changer, et que oui, il y aura des inconvénients à ça, mais qu'il y aura des opportunités, et c'est la conclusion que j'essaye toujours de faire dans mes vidéos YouTube, en disant que bah, je fais en sorte de donner les clés aux personnes qui me regardent pour qu'elles puissent profiter des opportunités que va générer l'intelligence artificielle. Par expérience, et dans l'histoire, ça s'est toujours avéré vrai, ce que je vais dire là, c'est qu'une innovation a détruit des emplois, oui, mais elle en a toujours créé plus qu'elle en a détruit. Est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, ce sera le cas ou pas? Je suis plus mesuré parce que l'intelligence artificielle va quand même faire pas mal de dégâts là-dessus. Je pense que le changement de paradigme que t'évoquais tout à l'heure, il va être important, et je pense que nos politiques devraient en prendre déjà la mesure et commencer déjà à réfléchir à des plans d'après la société telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais ça reste de mon avis. Mais ouais, aujourd'hui, il faut se former, il faut monter en compétences, et non, l'intelligence artificielle, ce n'est pas qu'une mode. Peut-être que ChatGPT en est une, ça c'est probable. Tout le monde pense que IA et ChatGPT, c'est la même chose, alors que l'IA, comme je te disais en introduction, genre moi j'en fais depuis 2017-2018, ChatGPT, ce que fait ChatGPT aujourd'hui, je le faisais via d'autres outils il y a 2-3 ans.
Ouais. C'est qu'un outil pour l'intelligence artificielle.
C'est votre premier pas, ce que je dis, et ce que je dis souvent dans la formation, hein, que je propose, formation en ligne sur ChatGPT, je dis, vous allez mettre votre premier pas dans l'intelligence artificielle, vous allez comprendre les enjeux, vous allez monter en compétence sur comment faire un prompt, notamment comment exploiter l'IA pour faire des actions, mais derrière, vous allez vous retrouver face à un champ des possibles énorme, et en fait, les opportunités, elles sont vraiment là. Et aujourd'hui, je suis convaincu que moi, l'IA, si on s'y intéresse bien et qu'on fait le travail nécessaire pour bien monter en compétence sur le sujet, c'est une excellente opportunité de gagner en productivité, de gagner en employabilité et de gagner en confort dans son travail. Parce qu'il y a des choses aujourd'hui qu'on fait qui nous font chier, qu'on n'a pas le temps de faire, qu'on bâcle parce qu'on est pressé, etc., que l'IA peut faire à notre place. Il y a des choses qui nous stressent que l'IA pourrait faire à notre place. Et ça, il suffit juste de se poser, de prendre une feuille, de dire qu'est-ce qui m'ennuie aujourd'hui dans mon travail, c'est tout ça. Qu'est-ce qui me demande trop de temps, c'est tout ça. Qu'est-ce que j'ai pas envie de faire, bah, c'est tout ça. Et en fait, demander à ChatGPT comment il peut le faire, ou demander à d'autres outils d'intelligence artificielle, parce qu'il y en a des milliers et des milliers, et vous allez avoir une solution pour l'automatiser ou le faire à votre place.
Eh bien, tiens, Ludovic, j'ai envie de finir là-dessus et de donner un petit challenge à nos auditeurs aujourd'hui, et de leur dire, bah, prenez une feuille là tout de suite et listez peut-être juste 5 trucs qui vous saoulent, que vous n'aimez pas faire ou qui est un peu rébarbatif dans votre boulot. Allez sur ChatGPT, prenez ChatGPT-4, 20 euros par mois, ça va, enfin 18 euros même, on va pouvoir se le payer. Allez-y, testez et regardez avec ChatGPT ce qu'il peut vous proposer. Amusez-vous, testez, commencez par faire ça. Ça peut être une première clé d'entrée pour celles et ceux qui l'ont jamais fait. Et puis surtout, ça peut ouvrir un champ des possibles. Puis un truc plutôt sympa, si on peut se libérer de trucs galères, c'est un premier pas. Mais surtout, en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire ce premier pas pour passer cette courbe du déni et faire ce premier pas pour découvrir. Et on verra bien ce qu'il y a, mais de toute façon, il y a des choses qui vont nous arriver dessus. Bien, pas bien, bah, l'histoire nous le dira, mais en tout cas, il faut au moins, au minimum, s'y préparer. Merci beaucoup, Ludovic, on pourrait en parler des heures et des heures.
Oui,
j'avais mille autres questions à te poser. Je te les reposerai probablement sur un autre épisode, si tu veux revenir à nous voir. Dis-moi, où est-ce qu'on peut, si on veut te suivre, si on veut t'embêter, si on veut en savoir plus, où est-ce qu'on peut te suivre, en savoir plus sur toi,
alors,
sur ce que tu proposes?
Alors, pour me suivre, bah, c'est très simple. YouTube. Aujourd'hui, je fais quasiment que ça en termes de réseau social. Comme je le disais, j'essaye de... Alors là, du coup, je suis un peu fatigué. Donc, avec l'été, je vais réduire la fréquence de publication. Mais je publie plusieurs vidéos par semaine sur les actualités de l'intelligence artificielle, surtout comment utiliser l'intelligence artificielle au quotidien. Donc, aujourd'hui, on a vu qu'il fallait savoir quoi lui demander et comment lui demander. Si vous allez sur ma chaîne, vous allez trouver plein d'astuces pour pouvoir l'utiliser. Donc voilà, faites votre liste, comme le disait Estelle, de ce que vous ne voulez pas faire ou de ce que vous n'avez pas le temps de faire, puisqu'on parle de marketing et beaucoup de personnes n'ont pas le temps de faire des posts sur les réseaux sociaux, n'ont pas le temps de faire du contenu pour leur site internet. Notez tout ça, allez voir sur la chaîne et je vous dirai comment on fait ça. Vous pouvez me trouver sur YouTube. J'ai une formation qui s'appelle Automatiser ChatGPT, parce que tout ce qu'on dit là, en fait, on peut l'automatiser. Donc on peut aussi faire en sorte que ce soit ChatGPT qui travaille pendant qu'on qu'on dort pendant qu'on prend un café, ou pendant que moi je te parle, Estelle, eh bien ChatGPT est en train de me faire des scripts de vidéo, est en train de me faire des articles de blog, etc. Donc on peut faire tout ça. Donc j'ai cette formation que vous retrouverez facilement en tapant formation ChatGPT Ludo, vous allez trouver ça.
Je mettrai le lien dans les notes aussi de toute façon.
Et puis si vous voulez me parler, LinkedIn, en fait, j'accepte à peu près toutes les personnes, sauf quand on me démarche un peu trop fort. Et sinon, voilà, vous me posez n'importe quelle question sur les réseaux sociaux, je répondrai avec plaisir.
Eh bien, génial. Merci infiniment, Ludovic, pour toutes ces infos sur ChatGPT. Et puis, allez-y, testez ChatGPT, puis vous nous direz ce que vous en avez pensé, si c'est bien, si c'est pas bien, et si c'est un sale type avec un regard narquois qui vous regarde de haut, vous nous direz. Merci, Ludovic.
Merci à toi, Estelle.
Alors Ludovic, merci infiniment de nous avoir partagé tous tes bons conseils sur ChatGPT. Cet épisode pour moi est une pépite parce que il a changé ma façon de regarder ChatGPT, on dit comme on veut. Mais ce qui est sûr, c'est que il faut aller plus loin, il faut aller creuser, il faut aller chercher, il faut se faire sa propre expérience et il faut le faire maintenant parce que les choses vont aller très 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 vite. Donc je vous invite, si vous n'avez pas déjà tenté l'aventure ChatGPT, d'aller tester. Si vous l'avez déjà fait, de continuer, de tester des prompts, d'y aller, de regarder le champ des possibles. Et même si vous avez le sentiment que ça ne changera rien dans votre boulot, ça changera forcément quelque chose dans votre vie. Ça aura nécessairement un impact à un moment donné de votre vie. Donc allez-y, testez pour savoir à quoi ça ressemble, ne serait-ce que ça. Si vous avez aimé cet épisode et si vous voulez soutenir le podcast du marketing, je vous propose de vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Tout simplement parce que ça vous permettra d'éviter de louper le prochain épisode, ça c'est une chose, mais aussi ça dit aux algorithmes que le podcast du marketing est intéressant. Donc si vous voulez me soutenir, je suis toute seule à produire le podcast du marketing. Si ça vous plaît et que vous voulez me faire un petit signe, me donner un petit coup de main, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix, peu importe, mais abonnez-vous, ça dira aux algorithmes que le podcast du marketing, c'est un podcast à recommander. Je vous dis à très vite.